dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Le retour est particulièrement troublant parce que...
Pascal André, médecin de retour de Gaza.
Parce que c'est compliqué d'aller faire la fête lorsque on sait ce qui se passe et lorsque ce sont pas des chiffres mais que ce sont des visages et des amis qui s'en vont et qui vivent la galère au quotidien. Lorsque vous avez des messages au quotidien qui vous disent on a soif, on n'a pas de quoi boire, on a faim, on a perdu des enfants, de faim... On est des équipes, on est là, mais on n'arrive pas à rentrer avec les médicaments en quantité suffisante. Nous n'avons plus d'anesthésique, nous n'avons plus de quoi réhydrater les patients. C'est comment faire avec ? Comment faire avec moi soignant quand dans un hôpital sur 150 soignants, il y en a peut-être 4 ou 5 qui m'interpellent et qui se posent des questions par rapport aux autres, par rapport à ça, et que la grande majorité se tait et parle de son quotidien, de ses vacances, de ce qu'elle va cuisiner ce soir, de la salle de muscu. Ok, chacun a le droit de vivre, chacun a besoin de vivre son équilibre, nous en avons tous besoin, mais nous avons aussi, je pense, le devoir d'être attentifs à notre conscience individuelle et à notre conscience collective pour pouvoir survivre. La crise environnementale nous le dit. La crise sociétale humaine liée au rejet de l'autre avec des murs qui construisent des fausses représentations sur ce qu'il y a de l'autre côté du mur nous concerne tous, maintenant.
Pascal André vient témoigner à nos micros sur la situation qu'il a rencontrée en février dernier lors de son séjour dans les hôpitaux de Gaza.
Il nous fera aussi part de son ressenti depuis son retour en France où il se démène pour que le droit international soit appliqué et respecté. Action fondamentale qui permettrait à la paix de pouvoir espérer s'installer un jour dans cette partie du monde. L'intervention de Pascal André sera émaillée d'enregistrements de conversations téléphoniques avec Ziad Medouk depuis Gaza, qui avant le 7 octobre 2023 était responsable du département de français de l'université Al-Aqsa à Gaza.
L'interview de Pascal André a été réalisée en deux temps, mi-juillet 2024 et fin septembre 2024.
Gaza l'a dévasté.
Témoignage de Pascal André
sur Dissonance.
Salut Pascal.
Salut.
Pascal André, tu es médecin et tu étais du 8 au 21 février de cette année dans un hôpital du sud de la bande de Gaza pour aider tes collègues palestiniens dans leurs tâches médicales. Depuis ton retour, tu nous alertes sur ce génocide qui est en cours à 4 heures d'avion de chez nous. Tu as organisé nombre de conférences, fait l'assaut des journaux télé ou radio pour faire part de ton témoignage et tenter de faire réagir les Français. Avec toi, Pascal, nous allons pendant une heure tenter de comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza et tenter d'expliquer pourquoi le droit international n'y est pas appliqué au vu et au su de tous. Et surtout, comment comprendre notre inaction, notre absence d'indignation. Et afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, je reprends ce qu'a dit récemment Leïla Chaïb, ex-ambassadrice de la Palestine, témoin et actrice engagée en première ligne et toujours militante de la cause palestinienne. Elle a dit, je la cite... Toute action contre des civils, qu'elle soit une action palestinienne, israélienne ou française, est un crime contre l'humanité. Et moi, je rajoute, que ce soit sur les camps de Sabra et Shatila, ou pour rappel, en trois jours, du 16 au 18 septembre 82, entre 700, ça c'est le chiffre israélien, et 3500 Palestiniens, ça c'est le chiffre des informations indépendantes, seront massacrés par l'armée israélienne, pardon, que ce soit aussi pendant les 56 années d'occupation par l'État d'Israël de la Palestine, appliquant un terrorisme d'État envers les populations palestiniennes, ou que ce soit le 7 octobre 2024, jour où... Et là, je cite le journaliste israélien Gideon Levy, qui a écrit dans le grand journal israélien Haaretz. Il a dit « Ce 7 octobre, l'État d'Israël paie le prix de la mise en cage de 2 millions de personnes. » Pascal, qu'est-ce que tu as vu en Palestine dans la bande de Gaza en ce mois de février 2024? De quoi peux-tu témoigner?
J'ai vu des hommes, des femmes, des enfants résister à l'intolérable, à une puissance de feu constante, à des bruits constants, des drones, à une insécurité constante. Et c'était au mois de février. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe depuis plusieurs mois. La situation est absolument hallucinante aujourd'hui. Mais ce que nous en avons vu avec les collègues avec lesquels j'étais, est venu profondément nous perturber pendant plusieurs semaines, tellement la puissance sonore, l'inquiétude, la pression, les bombardements étaient omniprésents. On a été extrêmement touchés de voir que cette population, malgré tout ça, était au service. De voir des gens, c'était en février, donc ça faisait déjà plusieurs mois que la situation était extrêmement compliquée sur place, même si elle s'est exponentiellement dégradée depuis et dans un silence absolument assourdissant et insupportable. Et ces personnes... moi, j'ai été extrêmement touché par celui que j'arrive jamais bien à dire, Abdullah. Ce « je rends grâce à Dieu ». Ce « je rends grâce à Dieu », même si j'ai perdu ma femme, mon fils, il me reste mes 3 filles, j'ai encore mes 2 mains et mes yeux pour travailler, grâce à Dieu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma mosquée, j'ai perdu tout le reste, tous mes souvenirs, tous mes papiers, tous mes diplômes. Mais grâce à Dieu, je suis là pour rendre service et voilà. Et donc cette abnégation de mon propre besoin vital, de mes propres désirs pour être au service de la justice, au service de mon frère qui a autant de valeur que moi, a été une leçon spirituelle pour chacun d'entre nous. Donc j'étais dans un groupe composé avant tout d'Américains, j'étais le seul Français, le seul Européen. Ils étaient tous musulmans, et j'ai été très impressionné par ces hommes et ces femmes, et ces enfants, qui étaient dans une vitalité au-delà de l'horreur.
Bonjour à tous les éditeurs, les téléspectateurs.
Ziad Medouk, depuis Gaza, le 28 octobre 2023.
Donc peut-être je vais être un peu ému, donc pardonnez-moi dans mes paroles, parce que les conditions sont dramatiques, et soit au niveau personnel, au niveau famille, au niveau quartier, au niveau Gaza. Donc pardonnez-moi si je... Je suis ému. Moi, j'ai décidé hier d'évacuer toute ma famille au sud de la bande de Gaza. J'ai décidé de rester. D'abord, décidé de rester. Donc, je pratique mes principes sur le terrain. Si je quitte Gaza, je suis désolé, humilié de l'intérieur. Je ne peux pas me pardonner. Et donc, je préfère rester ici, prendre le risque, mieux de mourir après 2-3 jours, une semaine, ou être déporté. Donc moi, je suis là avec mes camarades, mes collègues, mes amis. On prend pour une forme de résistance et on essaie de l'appliquer. D'accord? Même si j'ai des collègues qui ont été massacrés, assassinés, tués. Je vais vous dire, donc, comme vous voyez maintenant, il y a un bombardement à côté.
Lorsque je suis revenu, j'ai témoigné de ce que nous avions vu en termes de terrorisme d'État, de pression constante sur une population civile désarmée, suite à un mouvement politique de résistance, avec des crimes de guerre et probablement des crimes contre l'humanité, donc occasionnés le 7 octobre, donc probablement par des membres du groupe, des membres armés du groupe Hamas, mais aussi d'autres fractions qui étaient là, et peut-être aussi des gens qui étaient sous contrôle, en absence de contrôle. Donc des gestes extrêmement graves qui ont profondément meurtri un peuple avec une histoire particulièrement violente et un souvenir d'une présence constante et d'une douleur et d'une terrible pour ce peuple israélien et pour ces juifs qui ont revécu dans leur chair malgré ce qu'ils pensaient être une sécurisation maximum, quelque chose d'absolument terrible, avec en plus le fait d'avoir des otages, donc quelque chose d'une violence extrême qui explique bien entendu les réactions de certains et la narration que l'on entend. Mais j'ai vu et j'ai entendu les mêmes besoins de sécurité, de paix, et je pense que j'ai entendu là et vu là, malgré la violence subie et les pertes subies au plus intime de chacun, un désir d'aller au-delà. Avec mes collègues, nous n'avons pas entendu un seul discours de haine ou de violence du côté palestinien, à Khan Younes, là où nous étions, à l'hôpital européen. Alors que, avant de partir, ou en Cisjordanie l'année dernière, j'ai rencontré quand même beaucoup d'Israéliens, juifs ou non, qui avaient des discours beaucoup plus fermés, des discours qui imaginaient que l'autre était une menace vivante pour lui.
Que dois-je dire à Gaza ? Ziad Medouk, poète et écrivain palestinien d'expression française, Gaza-Palestine. Que dois-je dire, Gaza, lorsqu'on réprime ta marche non violente dans le sang, lorsqu'on enferme ton peuple dans une cage, lorsque les snipers d'élite tirent sur ta poitrine nue, lorsque ton droit à manifester pacifiquement est bafoué, lorsque l'obus du char israélien écrase ta branche d'olivier, lorsque les lambeaux de ton drapeau palestinien claquent au sang, lorsqu'on sème la haine face à ta paix, que dois-je te dire? Dois-je te répondre par mon indifférence, mon impuissance, ma faiblesse, mon silence, mon indignation? Que dois-je te raconter, Gaza? La lâcheté de ce monde cruel, le silence infâme de ces instances, l'impunité de ces exactions et ces homicides délibérés, le blocus impitoyable imposé, l'injustice navrante et absolue. Que dois-je dire aux jeunes de Gaza? Que dois-je dire à ces rêves inachevés? Que dois-je dire aux jeunes qui ne connaissent du monde que s'ils que voient sur une carte? Que dois-je dire à l'enfant de Gaza, à l'innocence perdue, à l'enfant oublié, meurtri, crucifié et martyrisé? Que dois-je dire à la mère de Gaza, à son cœur brisé, à cette mère qui voit les cadavres de ses fils s'entasser? Que dois-je dire au poète de Gaza, à sa plume déchirée, à ce poète qui ne parvient plus à cultiver son irréductible espoir? Que dois-je dire au réfugié de Gaza, à ce réfugié dont on n'entend pas le cri, à ce réfugié qui attend depuis des décennies avec sa clé de retour? Me dois-je de mentir à Gaza? Me dois-je de lui dire que la vie s'améliorera, que l'espoir l'emportera, que la justice triomphera, que le soleil reviendra, que sa liberté s'approchera, qu'elle enracinera la paix? Me dois-je de rassurer Gaza en lui disant quelle est la résistance dans la dignité, quel est le jasmin du monde, quel est au cœur des solidaires, quel est élan de vie dans un jardin oublié, quel est un espoir épanoui, quelle est la force tranquille qui résiste, quelle est l'âme généreuse et brillante des innocents, Quel est le garant de l'espérance indéracinable? Quelle est la gardienne de l'esprit révolutionnaire? Me dois-je de calmer sa colère? Me dois-je d'accepter son cri? Me dois-je d'effacer ses larmes? Me dois-je de supporter sa douleur? Me dois-je de la sortir de cet enfer insupportable? Me dois-je de l'aider à survivre, à surmonter ses peines? Me dois-je de sentir Gaza? Mais comment? Comment sauver Gaza? Comment protéger Gaza? Comment défendre Gaza? Comment sentir Gaza? Comment garder Gaza? Et comment libérer Gaza? Comment? Ziad Medouk, Gaza, mai 2018. Récité par Salwa Tahiri, étudiante au département de français de l'université Al-Aqsa.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a été témoins, et je pense que nous sommes nombreux à être témoins, du fait que les murs isolent, les murs enferment, mais les murs entraînent la méconnaissance de l'autre, le renfermement sur soi, et la violence. Et clairement, ce dont nous avons été témoins, et ce dont nous sommes malheureusement témoins tous les jours, à travers les messages quotidiens que nous recevons de nos amis... ceux qui ont survécu et ceux qui survivent dans les conditions innommables dont on reparlera tout à l'heure aujourd'hui, viennent nous dire que la haine, que la peur de l'autre ne peut pas permettre de vivre. Beaucoup de mes amis en Cisjordanie ou ailleurs me disent on vit quelque chose de terrible depuis des décennies en raison de l'hypocrisie et du silence du monde occidental. Qui nous parle des droits humains, des droits de l'homme, du droit, mais qui en fait s'assied dessus. Et notre espérance à nous, c'est que la justice soit faite, et la justice sera faite. Il n'y a pas un seul pays colonisé au monde qui un jour ne sait pas le libérer. Et notre conviction aussi, c'est lorsque on fait le mal, et ces soldats israéliens qui... écoutent les ordres, mais qui sont quand même des humains et qui parfois font le mal, même souvent font le mal, et nous en sommes victimes, ne pourront pas vivre en paix avec eux-mêmes, ne pourront pas vivre en paix avec leur propre éthique et leur propre religion. Donc nous ne souhaitons pas la poursuite de la guerre, nous ne souhaitons pas l'anéantissement de l'État d'Israël, nous souhaitons simplement vivre en paix au même titre qu'eux.
Gaza l'a dévasté.
Témoignage de Pascal André
sur Dissonance.
Et quand on entend des deux côtés du mur la même chose, le même besoin de sécurité, de vivre en paix, on peut s'interroger de pourquoi la puissance d'un discours qui est un discours unique, qui n'est pas critiqué, qui est généralement basé sur des éléments biaisés, faussés, inventés, n'est pas critiqué. Comment se fait-il qu'il scie, alors que quand même, lorsqu'on est homme ou femme de médias, lorsqu'on est homme ou femme politique, homme ou femme soignant, qu'on s'engage à une déontologie, à une éthique, lorsqu'on est simple citoyen, comment se fait-il qu'on ne soit pas plus critique sur l'origine des informations que l'on reçoit? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas prendre l'espace et le temps de recontextualiser pour essayer de mieux comprendre? On a quand même aujourd'hui beaucoup d'écrits, beaucoup d'expériences, beaucoup de regards internationaux, beaucoup de prises de position de la justice internationale qui viennent nous dire des choses qui sont simples. La situation n'est pas complexe, comme nous disent beaucoup. On peut prendre position. On peut prendre position pour l'application du droit international, du droit humanitaire. Ça n'est pas complexe, c'est juste la base de notre vivre ensemble. Et on peut vraiment s'interroger aussi maintenant, lorsque je voyage au Brésil, en Belgique, que je regarde la France de l'extérieur, sur l'évolution de notre, de notre belle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Lorsque nous marchons entre Paris et Bruxelles fin janvier pour l'application du droit international, qu'on s'arrête sur le chemin en entendant avec énormément d'émotion la prise de position de la Cour internationale de justice, et que parallèlement, les amis, la plupart musulmans, avec lesquels je me trouve en état de marche intérieure et physique, me racontent ce qu'ils vivent sur notre territoire français, droit de l'homme, d'une politique finalement très racisée, une politique où c'est compliqué de trouver un logement lorsqu'on s'appelle Mohamed ou Rachida, que les contrôles dans la rue aux faciès sont quand même extrêmement fréquents, que l'islamophobie est tue alors que l'antisémitisme est mis en avant au tel point qu'on vient faire une manifestation nationale de grande ampleur sans même parler du racisme et de l'islamophobie, que la narration unique est tellement omniprésente et que la circulaire du 10 octobre, 3 jours après les événements, est tellement castratrice de la liberté et fermée en termes de recontextualisation possible. Bien entendu, il n'est pas question de tolérer toute forme d'antisémitisme, toute forme d'islamophobie ou de racisme dans notre démocratie, mais encore faut-il que ça soit équilibré et qu'il n'y ait pas deux points de mesure. Car réellement, moi je le vis en tant que soignant, assez rapidement, nous avons sollicité individuellement, puis avec 250 soignants, donc le comité national d'éthique, puis le comité d'éthique du Conseil national de l'ordre. Quant aux deux poids deux mesures, lorsque 3 mois après les événements en Ukraine, le comité européen de l'ordre des médecins se positionne explicitement pour le respect du droit des soignants et de la vie et de l'accès aux soins et de l'importance de ne pas attaquer des soignants, des hôpitaux, et que absolument rien n'est dit des mois et des mois après donc ce qui se passe en territoire de Palestine. Cela interroge. Lorsque même une centaine de médecins israéliens demandent à ce que l'on bombarde les hôpitaux pour éviter donc aux personnes de pouvoir se faire soigner et donc de contribuer davantage à l'éradication de la population, il n'y a pas d'écho. Lorsque, il y a quelques semaines, le Premier ministre israélien est interrogé donc, par LCI donc, à Tel Aviv ou à Jérusalem, qu'il développe son propos de manière extrêmement tranquille, à l'aise, avec des énormités qui sont complètement contre-historiques et qui ne tiennent pas du tout la route en termes de rapport entre, par exemple, le nombre de morts d'un côté ou de l'autre. Il parle d'un rapport de 1 à 1 ou de 1 à 3, alors qu'il s'agit d'un rapport de 1 à 40 ou de 1 à 50, lorsqu'il dit que je crois que seuls 3% des territoires colonisés posent souci, lorsqu'il compare ce qui se passe sur place à la lutte contre la barbarie, à la libération de l'Europe des armées nazies. Je crois qu'on est dans une confusion complètement souhaitée, avec une sémantique calculée, dans le cadre d'une communication contrôlée. Et lorsque aucun politique français ne s'autorise à contredire officiellement donc, ce discours, à part possiblement donc, des membres de la gauche, et que je n'ai pas entendu bien fort, cela fait froid dans le dos. Lorsque nous rencontrons le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui s'était pourtant engagé assez rapidement publiquement pour l'application du droit, mais qui n'écoute pas le discours de Netanyahou, écoutant plutôt celui de Trump, et qui, 48 heures après, ne réagit toujours pas à ces énormités et contre-vérités, lorsqu'aucun média ne le fait, je pense qu'on peut être inquiet. L'extrême droite n'est pas passée il y a quelques jours en raison d'un sursaut républicain, mais ce que l'on vit actuellement, quand même, est glaçant. car ça touche au plus intime de ce qui nous donne sens et ce qui nous permet l'altérité. Si nous refusons de rencontrer l'autre dans la différence et si nous construisons des murs pour rester qu'avec nos semblables, où allons-nous ? Nous avons vu ce que ça a fait en 39-45. Nous avons vu ce que cela fait dans chacune de nos cités qui construit des murs. Il y a beaucoup mieux à espérer.
Bonjour de Gaza sous les bombes. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. La situation est dramatique. Les chars israéliens sont arrivés sur la côte, à côté de la ville de Gaza, à 2 kilomètres de chez moi. Malgré les menaces, malgré l'avancée de ces chars, je suis toujours chez moi. La situation est dramatique. Après 35 jours de cette nouvelle agression israélienne contre le peuple palestinien.
Et clairement, ce que nous avons entendu, vu et appris, ce que mes collègues aujourd'hui présents, mes collègues européens, américains et autres présents auprès de nos collègues palestiniens, ceux qui ont survécu, parce que beaucoup sont décédés, ce qu'ils nous disent, c'est que ce peuple, qui est d'une résistance et d'une résilience hallucinante, que je pense très peu d'entre nous pourraient trouver en lui-même la ressource, tellement c'est juste horrible.
Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte ? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte ? Gaza bombardé, massacré, enfants ciblés, mères en pleurs. De mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les shops et la rue, le marché, la chambre au bonheur. Et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissants comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesse. Et toi, pilote routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonnes, qui penses, et n'as avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbin sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine ? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femme ordinaire, simple passant, où sont votre rage et vos cris, le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qu'il reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
Gaza l'a dévasté.
Témoignage de Pascal André
sur Dissonance.
Ce que longtemps je me suis interdit à parler ou à évoquer comme génocide, mais simplement comme intention génocidaire, mais j'appelle aujourd'hui génocide, car le silence insupportable des juges de la CPI, malgré l'avis du procureur le 25 mai, invite à penser que les pressions politiques américaines et du lobby juif sont tellement importantes partout que la justice mettra pas non seulement 2 ans à pouvoir qualifier ces exactions inhumaines de génocide que très tardivement. Donc osons les mots, osons dire ce qui se passe au quotidien de ce que nous disent nos amis lorsqu'ils arrivent à nous contacter. Y a pas pire, quoi. Franchement, il y a pas pire. Ça sert à rien de revenir sur les descriptions de l'horreur. Si vraiment vous voulez le faire, ouvrez Al Jazeera, ouvrez les réseaux sociaux et écoutez ce qui se dit, écoutez les publications quotidiennes des citoyens sur place. Arrêtons de jouir de l'horreur de l'autre, mais ouvrons les yeux, prenons conscience et sortons de cette léthargie et de cette hypocrisie qui est douloureuse à vivre. Je comprends ce que me disent mes collègues quand, en Cisjordanie l'année dernière ou à Gaza en février, ils me disent repars chez toi parce que c'est bien de venir nous aider, mais ce que l'on vit depuis si longtemps, c'est à cause de votre silence, à cause de cette hypocrisie chez vous. Je comprends parce que, en devenant un peu porte-parole de leur voix, en ayant enregistré leur voix, en ayant enregistré quelques images, sans les exposer directement, on vit la même chose depuis nos retours les uns et les autres ici. On vit des médias qui veulent du sensationnel, qui veulent du sang, qui veulent des larmes, qui veulent des photos, pas trop, parce que quand même, quelque part, ça me donne envie de vomir, ça me donne la nausée, donc quand même. Mais en même temps, qui ne vont pas vraiment sur le fond qui est celui de l'engagement éthique de chacun d'entre nous.
Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Terrible nouvelle, l'occupation a bombardé mon immeuble hier soir. Mon appartement est détruit totalement et mon frère et sa famille sont assassinés. Mon frère, un ingénieur en agronomie, très honnête, très sincère, connu à Gaza par ses services pour les pauvres de Gaza. Il était assassiné avec sa famille, chez eux, sa femme et ses 5 garçons et filles. Et donc mon immeuble était détruit totalement et mon appartement au deuxième étage était détruit. Et malgré ça, je resterai toujours à Gaza, je ne quitterai jamais Gaza. Malgré cette terrible nouvelle,
malgré donc cette situation dramatique. Je suis devenu sans abri et je cherche un refuge. J'ai perdu mes affaires, mes services, mes souvenirs, moi et toute ma famille. Donc on cherche un refuge. C'était hier soir, c'était terrible. Devant les ruines de ma maison, de mon immeuble, de mon appartement, il ne reste rien. Mais je garde espoir pour l'avenir. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza Palestine.
Tu voulais me poser la question du politique. Je pense que, plus que le politique, la question est de quel sens pour moi à la vie avec l'autre, quel sens pour moi à la vie en société, c'est quoi être citoyen, être politique, c'est être engagé dans la cité. Donc citoyen engagé dans la cité, ça veut dire accepter l'altérité, l'autre qui peut me déranger mais qui me fait avancer et qui nous permet de rester en vie ensemble. Et je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est que on prend conscience que le régime de terreur dans lequel nous vivons, qui est un régime en fait où les médias, que la plupart des médias aujourd'hui nous transmettent, ça fait peur. Et si on a peur, on se replie, on réfléchit moins, on ne prend pas le recul, on ne peut pas contextualiser. Et si en plus on a peur de réfléchir et de dire, parce qu'on peut être poursuivi, comme au 30 janvier, 650 personnes ont été poursuivies entre le 7 octobre et le 30 janvier pour apologie du terrorisme ou antisémitisme, sur des bases qui restent vraiment à analyser de manière critique, et probablement encore beaucoup d'autres depuis le 31 janvier, il est urgent de se poser et de revenir à nos fondamentaux, car on est en train de se perdre. On a eu peur, on est nombreux à avoir eu peur du vote extrême qui a pu se passer, mais si nos bases éthiques et nos bases juridiques qui fondent notre vie en commun et notre relation aux autres ne sont pas appliquées, et je pense qu'on est inquiet pour l'environnement, on est inquiet par ce qui se passe, par ces sécheresses partout, ou ces niveaux d'eau qui montent trop vite d'un coup et qui nous noient. Mais attention à ce qui se passe là, sur des choses qui sont beaucoup plus insinueuses, mais beaucoup plus probablement problématiques pour ça, chacun d'entre nous. Et ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, sans avoir de responsabilité politique, sans avoir de capacité particulière, juste en étant fidèle à sa conscience, est en mesure de changer ça. Je peux vous dire ce qu'on a vécu au mois de juin à Paris, dans ces manifestations, même si elles ont été souvent violemment réprimandées, est venu nous apporter de l'oxygène. Merci à tous ces jeunes, très jeunes, souvent primo-manifestants, non politisés, qui juste ont écouté le cri de leur conscience. Pas juste dans de l'affectif, mais simplement en voulant que le droit auquel ils croient, que ces valeurs de la République auxquelles ils croient profondément, puissent être appliquées. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de créer des partis, des dynamiques particulières. Si chacun d'entre nous est attentif à ce droit, qu'il soit israélien, juif, musulman, palestinien, français, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de revenir à ces valeurs fondamentales qui nous permettent de vivre dans la relation à l'autre, dans me laisser bouger par l'autre, cette altérité qui vient m'altérer, mais qui me permet d'avancer et me permet de faire avec l'autre. Je pense que ça donne du sens et je pense que ça donne de l'espérance. Et je crois qu'actuellement, chacun d'entre nous a besoin de ça. Moi, je suis médecin, je peux vous dire que la société va mal. Je le vois aux urgences, je l'ai vu dans mon cabinet pendant 18 ans. Je sais, de par mon métier, en tant qu'observateur, que le matériel, qu'avoir toujours plus... Plus de territoire, plus de matériel, le plus grand kiki du monde ou la plus belle voiture n'apporte pas le bonheur. Je peux vous dire que comme médecin, j'accompagne beaucoup de personnes, j'ai accompagné beaucoup de personnes dans leur fin de vie. Et je peux vous dire que les personnes qui meurent en ayant bien vécu, et donc qui meurent bien et qui s'en vont en paix, sont les personnes qui ont le mieux géré cette relation à eux-mêmes, à la vérité avec eux-mêmes, avec leur conscience, et aussi à cette besoin d'être en vérité avec ce qui constitue leur plus grande liberté, c'est d'être en écho avec leur conscience, leur ligne intérieure qui leur donne de l'équilibre, de la finesse, de la poésie et de l'humanité. Et je pense que ça, c'est valable en chacun de nous, que vous soyez jeune, vieux, mourant, naissant, de droite, de gauche, c'est cette conscience éthique, cette conscience sur nos valeurs fondamentales qui est en jeu aujourd'hui. Alors bien entendu, quand on parle de méga-vaccine et quand on se mobilise pour les méga-vaccines, c'est aussi ça qui est en jeu. Mais bien entendu, il faut aussi prioriser sur ce qui se passe aujourd'hui. On va éteindre probablement, comme on éteint depuis des décennies, nos responsabilités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On va encore transformer l'histoire. Il faudra peut-être entendre encore 40 ou 50 ans pour que la vérité surgisse. Mais nous avons là, aujourd'hui, dans nos mains, les moyens de changer les choses. Osons-le, osons contre-attaquer les attaques juridiques qui sont totalement biaisées, qui ne donnent pas suite à poursuite dans la plupart des cas. Revenons sur ce qu'est aujourd'hui le terrorisme et le terrorisme d'État et l'apologie du terrorisme d'État. Revenons à ce qu'est l'antisémitisme en écoutant des voix juives, peut-être minoritaires en France, mais qui nous disent qu'aujourd'hui le conflit n'est pas un conflit antisémite, mais un conflit simplement lié donc à une colonisation, que c'est une guerre coloniale. Revenons aussi à ces valeurs qui sont importantes et qui nous permettent de vivre avec des personnes qui n'ont pas la même couleur, la même culture que nous, autour de valeurs communes, du respect des valeurs de la République, en acceptant nos différences, mais en n'oubliant pas la liberté, en n'oubliant pas cette fraternité qui nous donne cœur et sens.
Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover.
Gaza l'a dévasté.
Témoignage de Pascal André
sur Dissonance.
Salut Pascal, on est fin septembre, on se retrouve après cet été rouge à Gaza.
Rouge de sang, rouge de colère, rouge de combat sans lâcher de leur part et de notre part ici. La situation est vraiment compliquée, comme on le voit. Les collègues sont exténués. L'hôpital européen où on est intervenu au mois de février a été évacué durant l'été, avec les 900 patients qui étaient dedans, dont plusieurs en réanimation, beaucoup de blessés graves. 25 000 personnes autour ont été évacuées. Les collègues sont dans des tentes. Il pleut actuellement sur Gaza. Ça ne suffit pas à changer la couleur au rouge. Les tentes sont remplies d'eau. On a reçu encore des vidéos ce matin et hier soir. De collègues médecins, infirmiers qui ne peuvent pas retourner à l'hôpital européen parce qu'ils sont trop loin, qu'il n'y a pas de logement possible à proximité, parce que c'est trop dangereux. À côté, il y a un peu de vert, il y a quand même cette capacité à rebondir, à revenir pour certains. Donc ça a réouvert il y a 3 semaines, avec l'aide du ministère de la Santé donc de Gaza, d'associations qui soutiennent aussi. Et puis il y a quand même énormément de soignants qui ne sont pas encore morts, qui ne sont pas encore blessés sur Gaza, heureusement. Je vous rappelle que c'était un territoire de l'équivalent à peu près à les territoires de Paris, avec une offre de soins à peu près similaire.
Combien d'hôpitaux restent encore en service actuellement ?
Il reste 4 hôpitaux fonctionnels aujourd'hui sur les 38 qui étaient présents, pour 2,5 millions de personnes, moins tous ceux qui sont décédés, ou blessés, ou disparus. Donc, dans cette petite nouvelle positive, on a reçu une vidéo aussi de collègues qui avaient réussi à réouvrir quelques salles opératoires à l'hôpital européen. Donc les choses reprennent malgré tout au fur et à mesure, comme ça a repris à Nasser, comme ça a repris un peu à Al-Shifa. Mais ça n'efface pas l'abominable, l'innommable blessure qui est omniprésente aujourd'hui, mais dans laquelle nos collègues et amis ne semblent pas enfermés. C'est-à-dire que j'entends pas plus de discours de haine que j'en ai entendu au mois de février, que nos collègues ont entendu au mois de février et depuis. On entend des gens qui veulent simplement que le droit international soit respecté et qui nous disent « Merci de venir nous aider, merci de nous apporter des médicaments, mais repartez chez vous parce que le problème est chez vous. » Depuis tant de décennies, le droit n'est pas appliqué. Les résolutions de l'ONU, où il y a l'Assemblée générale de l'ONU en ce moment, où des positions extrêmement claires de l'ONU, de Borrell pour l'Union européenne, qui sont vraiment explicites, mais qui ne sont pas suivies des faits. La Cour pénale internationale, vous avez entendu le procureur, vous avez entendu la Cour internationale de justice. On attend toujours donc la décision des juges et les mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahou et du ministre de la Défense. Du côté du Hamas, il n'en reste plus qu'un, mais malheureusement, les autres sont décédés parce que cible donc de l'armée israélienne, et celui qui reste risque aussi donc de ne pas pouvoir être poursuivi parce qu'il est poursuivi par l'armée israélienne qui est vraiment extrêmement puissante. Donc voilà, rouge. J'ai eu l'impression en fait en voyant le mur à Tul Karem l'année dernière ou cette année à Gaza, que les murs qu'on essaie de construire autour de l'Europe produisent la même chose. C'est-à-dire lorsque on ne connaît pas l'autre, lorsqu'on a une fausse image sur l'autre, on lui fait porter toutes nos peurs. On lui fait porter des horreurs. Alors que lorsqu'on traverse le mur et qu'on rencontre l'autre, on se rend compte que finalement, il me ressemble. Il ressemble à la personne que j'ai rencontrée de l'autre côté du mur et que chacun a la même aspiration à la paix, à respecter ses droits fondamentaux, de pouvoir manger, dormir, élever ses enfants, suivre des études, aller prier, si je le souhaite. Et que peut-être le meilleur moyen d'arriver à ça, d'un côté comme de l'autre, du côté israélien comme du côté palestinien, c'est de se rendre compte que les murs nous emmurent, et que les murs nous enferment, et que les murs vont nous faire couler. Lorsque Philippe de Villepin, Borrell, le secrétaire général de l'ONU le disent ces derniers jours, peut-être qu'il faudrait les écouter. J'entends les manœuvres politiques aujourd'hui en place en France ou en Israël pour garder le pouvoir. Mais lorsqu'elles s'accompagnent d'une fermeture, lorsqu'elles s'accompagnent au sein d'un gouvernement Barnier, qui quand même en 2007 était pour une solution à deux États, dans une politique très chiraquienne et gaullienne, quand on voit dans son gouvernement une ministre du Travail qui aujourd'hui n'a pas encore ouvert la bouche à ce propos, mais qui l'ouvrait très explicitement au mois d'avril lors d'un congrès de sionistes, où effectivement il fallait soutenir à tout prix Israël et tout faire pour que la solution palestinienne soit réglée de manière définitive, on peut vraiment s'interroger. Lorsque le 10 octobre, 3 jours après les terribles événements du 7 octobre, totalement terribles, qui doivent être poursuivis, comme tout événement violent et toute agression violente à l'égard de civils, Donc, pareil pour tous les événements survenus à Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Lorsque donc le ministre, quoi, l'ex-ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, pond une circulaire qui vient quand même interroger sur l'indépendance des procureurs et de la justice, invitant à être extrêmement sévère avec toute personne qui se manifesterait pour essayer de recontextualiser le problème et essayer d'ouvrir le débat sur une autre lecture que celle unique présentée, cela conduit à une criminalisation. Criminalisation de ceux qui, aujourd'hui, portent le discours de l'ONU, le discours de la Cour internationale de justice, le discours de la CPI, dans la rue, dans les médias, et qui se font poursuivre. On est dans un moment d'inquiétude. On est dans un moment où la défense du droit, le respect de l'éthique, une position équilibrée, n'est pas possible. Lorsque je rencontre dans ma proximité, dans mon travail, des personnes de confession juive qui n'ont malheureusement qu'un seul discours parce que qu'une seule identification extrêmement passionnée et passionnelle à ce qui se passe depuis le 7 octobre, s'identifiant donc à l'une des victimes ou connaissant les familles de victimes, et ils n'arrivent pas à ouvrir à autre chose. Ils n'arrivent pas à ouvrir à une autre relecture. Ils n'arrivent pas à voir la souffrance en écho et préexistante du peuple en face. Et c'est terriblement violent, terriblement dommage, car c'est une névrose traumatique collective, avec une identification victimaire collective, qui crée en fait un espace pour permettre à un gouvernement israélien en lien très étroit avec une extrême droite raciste, une extrême droite extrêmement fermée, de faire ce qu'ils veulent. Et c'est bien ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Cisjordanie depuis des décennies, mais terriblement là depuis quelques jours. Ce qui se passe à Gaza depuis fort longtemps et terriblement depuis le mois d'octobre 2023. Mais c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup d'autres endroits du monde où, au nom d'une défense d'une valeur universelle, des droits de l'homme, finalement, on reste dans une politique néocolonialiste qui est extrêmement contre-productive. Et on n'entend pas les messages d'alerte de Villepin qui nous dit « Attention, tout ça, ça va se retourner contre nous ». Quand Borrell le dit il y a une semaine aussi, personne n'entend, personne ne reprend. Mais nous qui avons été, moi l'année dernière en Cisjordanie, cette année à Gaza, je l'ai entendu. Qu'est-ce que vous faites ici avec vos valeurs? C'est quoi ces droits de l'homme? Regardez, on se prend des bombes, regardez, on tue nos enfants, regardez, on tire dans la tête de nos enfants.
Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 1er janvier 2024. Bonne année 2024, meilleurs vœux de Gaza la détruite, donc malgré une situation explosive, terrible, horrible dans la bande de Gaza. C'est vrai, ça fait un mois que je n'ai pas donné de nouvelles, mais...
Mon ami Mohamed Al-Sharif, qui est donc un médecin né à Gaza Centre, avec qui on est retourné à Gaza, il est retourné pour la première fois à Gaza à l'âge de 32 ans, en tant que neurochirurgien pédiatrique formé donc aux États-Unis. Il est venu avec nous au mois de février. J'ai assisté, enregistré tout son parcours extrêmement touchant. Il est venu à Millau il y a 15 jours parce qu'il était à la maison. Et il a témoigné de l'importance de continuer le combat pour l'application du droit, de continuer nos mobilisations dans chacune de nos villes, par Internet, par téléphone, pas forcément besoin de se bouger physiquement. Continuer cette politique avec boycott, désinvestissement, sanctions, qui a de l'impact, qui a eu de l'impact sur SFR, qui a de l'impact sur AXA. Continuer l'action contre la coopération économique entre l'Union européenne et Israël dans les conditions actuelles, telles que dénoncées par les 160 associations la semaine dernière. Et il nous a dit tout ça est extrêmement important. Continuez. Donc ne désespérons pas, soyons courageux, suivons l'exemple. Moi j'ai été extrêmement touché par l'exemple de ces personnes que j'ai rencontrées sur place qui ne sont pas dans la haine, qui sont dans l'acceptation de ce qui advient, mais qui sont dans une non-résignation et d'une volonté de se battre pour leurs droits. Et ce combat-là, c'est notre combat à nous aussi, parce que ces droits sont menacés ici aussi. Lorsque nos médias sont contrôlés, lorsque la parole est unique et lorsque le débat contradictoire est le débat éthique, éthique dans la mesure où on échange différents points de vue, on échange différentes cultures, on échange différents savoirs et on met en commun, sans juger, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais juste en reconnaissant l'humain comme étant notre base et notre valeur essentielle, avec la même valeur de l'humain, qu'on soit blanc, jaune, vert, musulman, chrétien ou autre. Nos sociétés peuvent interroger là-dessus. La réponse à l'égard de l'Ukraine n'a rien à voir à l'égard à celle à l'égard des conflits au Moyen-Orient ou en Afrique.
Bonjour de Gaza sous les bombes, bonjour de Gaza la détruite, Gaza la dévastée, Gaza l'agressée. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024. La situation est toujours horrible. Donc je vais parler aujourd'hui de la solidarité des Palestiniens de Gaza malgré leur souffrance avec le peuple libanais, avec la population civile libanaise qui est en train de subir depuis 3 jours des attaques sanglantes et des bombardements intensifs dans le sud et dans le centre.
À travers les médias classiques, on a l'impression que les jeunes, tu me diras si je me trompe, s'investissent plus dans la défense de l'environnement, dans les problèmes du dérèglement climatique, que sur les problèmes du respect du droit international en Palestine. Je ne sais pas, en tout cas, c'est l'image que j'ai vue de l'extérieur. Les rassemblements hebdomadaires, il y a beaucoup plus de gens de 50-70 ans que de jeunes de 25 ans.
En tout cas, moi, sur Alès, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se bougent. Il y a des manifs tous les samedis matin, 10h30. Par rapport à ça, j'ai beaucoup d'amis qui y vont, beaucoup d'amis qui sont d'ailleurs aussi en plus engagés politiquement du bord gauche, bien bien gauche quoi. En plus des gens voilà, qui sont aussi issus de la communauté LGBTQIA+, queer, tout ça. Non, j'ai l'impression que ça se bouge. Des plus jeunes que moi d'ailleurs, parce que moi j'ai quand même 27 ans déjà, mais c'est vrai que tous les jeunes que je côtoie à Alès, qui sont entre les 18-23 ans, il y a des consciences qui s'élèvent, et même je pense que ça va au-delà du problème écologique. Je pense que en fait pour eux, il faut d'abord soigner le problème sociétal, politico, géopolitique, avant le problème écologique. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vision comme ça qui s'installe.
L'écologie humaine, c'est prendre soin de l'homme, et donc c'est bien de prendre soin de la nature qui entoure l'homme, mais s'il n'y a plus d'homme, parce que l'homme a perdu son humanité, soit parce qu'il est enfermé dans une violence dont il ne se remettra pas, car on ne peut pas être, c'est mon ami Wael en Cisjordanie qui me disait, tu sais, notre espérance aujourd'hui, c'est que celui qui fait le mal réalise qu'il fait du mal et que ça se retourne contre lui. Dans sa propre société. Il n'y a que comme ça que ça arrivera à bouger. Et pareil pour les sociétés occidentales, si vous comprenez que votre silence et votre inaction et votre hypocrisie sont responsables du mal aujourd'hui parce que le droit que vous prenez n'est pas appliqué, cela enfin changera.
Merci Pascal.
Merci à Aurélie de Radio Grille Ouverte d'Alès pour son intervention sur la jeunesse et Gaza lors de la deuxième partie de l'entretien avec Pascal André. Des liens vers les sites évoqués par Pascal André se trouvent sur la page internet de cette émission. Salut
et fraternité. Comment voulez-vous qu'il s'installe sans même pas de code postal? Un peuple qui n'a pas d'adresse est comme un papillon sans aile, comme une corne sans gazelle, ou la moindre des politesses. Ce peuple qui est barricadé, on dirait qu'on le joue au dé, on dirait qu'on le joue pour rire. comme s'il n'avait pas eu d'histoire, comme s'il était né d'un trou de mémoire et pas le moindre souvenir. Il chante des bronzes à Gaza, le monde est pas ce qu'il nous a promis, des années qu'il chante un état, mais pour la terre est un tas d'amis, pour la terre est un tatami. Ces drôles, ils ont autour du cou comme le souvenir d'un coup qui ne guérit pas de sa plaie. Un bout de fer comme un bijou qui leur rappelle quand ils jouent une maison, un champ de blé. C'est comme une clé sans serrure, un cri qui n'est plus qu'un murmure, la goutte d'eau dans le désert. Cherchez pas de calendrier, rien ne leur fera oublier qu'un jour ils ont eu une terre. Ils chantent des bronzes à Gaza, le monde est pas ce qu'il nous a promis, des années qu'il chante un état, mais pour la terre est un tatami, oh pour la terre est un tatami. Jamais vu sur terre un peuple qui n'a pas de frère et qui est entouré de cousins. Oh, c'est à croire qu'il faut qu'on tremble devant celui qui vous ressemble, et pire si c'est votre voisin. Il chante des bronzes à Gaza, le monde est pas ce qu'il nous a, des années qu'il chante un état, mais pour la terre est un tatami, oh pour la terre est un tatami. Il chante des bronzes à Gaza, le monde est pas ce qu'il nous a promis, des années qu'il chante un état, mais pour la terre est un tatami, la terre est un tatami.